Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, nous découvrirons un des romans les plus puissants de la rentrée littéraire, Règne animal, de Jean-Baptiste Delamo. De quoi combler les lecteurs amateurs de sensations fortes, nous dira Bernard Lehu. À la télévision ce soir, France 2 diffuse dans Envoyé spécial la fameuse enquête dont tout le monde a parlé sur l'affaire Big Malion qui a créé des tensions à France Télévisions. Isabelle Morini-Bosque a pu la voir en avant-première. Nous prendrons connaissance de nos express du jour préparés par Charlotte Arrigoni. Et puis Charlotte Latour nous fera entendre une des voix lyriques les plus en vogue de l'opéra aujourd'hui, celle du contre-ténor argentin Franco Fagioli.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous nous présentez ce matin l'un des romans les plus étonnants de l'automne, peut-être l'un des plus dérangeants aussi, son titre « Règne animal » de Jean-Baptiste Delamo.
Oui, ce jeune auteur surdoué Goncourt du premier roman en 2008 avec une éducation libertine raconte dans son quatrième ouvrage l'histoire d'une famille d'éleveurs de porcs sur cinq générations de 1898 aux années 1980 et en montrant comment d'une ferme où une famille de paysans cohabitait avec deux cochons, on aboutit à une véritable usine à viande. Jean-Baptiste Delamo fait de sa saga familiale une fresque d'une rare puissance sur un siècle bouleversé par la folie du rendement et la tyrannie de la productivité. Mais pourquoi avoir choisi le cochon comme emblème et victime de cette évolution? Écoutez la réponse très intéressante et surprenante de Jean-Baptiste Delamo.
Il y a une véritable affection pour l'animal qu'est le cochon.
Ah oui.
Oui, un animal qui me touche beaucoup depuis que je suis enfant. Aujourd'hui, on le sait en plus avec l'avancée des sciences, de la génétique, le cochon est particulièrement proche de nous. On partage quasiment 95% de notre ADN avec le cochon. C'est donc un frère, du moins un cousin. Et pourtant, c'est celui que l'on exploite avec le plus de violence et d'acharnement. Et puis, alors ça c'est plutôt anecdotique, mais sans doute assez révélateur, je vis aussi avec deux cochons de compagnie.
Ça existe, les cochons de compagnie?
Tout à fait, oui. Ah oui. Et donc j'ai la chance d'avoir un espace suffisant pour avoir pu les installer, au même titre que des chiens, même si ce sont des animaux très différents, mais en tout cas, pour le moins aussi intelligents.
Alors comment dirais-je? Il est surprenant ce garçon.
N'est-ce pas, ouais. Et alors la vie de la porcherie industrielle qu'il décrit dans Règne animal devient une parabole, bien sûr, celle de la barbarie des hommes et du monde. La violence infligée aux bêtes par leurs éleveurs est une violence faite à eux-mêmes. Là où l'animal souffre, l'homme s'avilie. Jean-Baptiste Delamo.
Je pense en tout cas que ces violences sont étroitement liées et que peut-être en choisissant d'épargner la souffrance des êtres les plus vulnérables, en l'occurrence les animaux, puisqu'on sait très bien qu'on parle souvent du silence des bêtes, les animaux n'ont pas la possibilité de ce recours à la parole. Et c'est peut-être pour cela finalement qu'on continue de les asservir et de les exploiter. Et je pense profondément que le jour où on questionnera cette exploitation et le jour où on choisira de diminuer la souffrance animale et de la faire cesser, on attaquera par extension toutes les formes de violence et d'asservissement qui peuvent être faites aussi aux autres hommes.
Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça coupe l'envie de manger du cochon, hein, une fois qu'on a lu Règne animal.
C'était pas l'objectif premier, bien entendu, mais je me réjouis quand même si les gens peuvent soit diminuer leur consommation, soit l'arrêter totalement.
Alors, je ne marquerai pas ma page avec une tranche de jambon, bien sûr. Est-ce à dire que Jean-Baptiste Delamo signe un roman militant pour la défense de la cause animale?
Alors, lui-même se dit véganiste. Vous savez, il ne consomme, il n'utilise plus aucun produit d'origine animale. Mais réduire Règne animal à un acte uniquement militant, mais ce serait une erreur. C'est d'abord ce livre, une prouesse littéraire réalisée par Jean-Baptiste Delamo dans une langue d'une richesse stupéfiante. Il bouscule son lecteur tour à tour, horrifié par la cruauté des conditions d'élevage des porcs, ému par la beauté de la nature environnante et qui est là omniprésente, et puis fasciné par l'histoire, frappé du sceau de la tragédie de sa famille de paysans. Il y a, je pèse mes mots, hein, il y a du Zola et du Giono réunis dans ce livre, dérangeant, éprouvant, parfois, époustouflant, voilà, je n'en trouve même plus mes mots, et un livre qu'il faut aborder comme une véritable expérience.
Il y a cette idée-là qu'une lecture doit aussi nous engager physiquement. C'est une expérience sensorielle, sensuelle. Ça doit pas nous laisser indifférents, quoi. Il faut que ça nous touche, il faut que ça nous engage dans ce rapport au monde, au corps, aux odeurs, aux sons, aux textures, à la matérialité. Moi, j'aime être bousculé par les bouquins. J'aime qu'ils me dérangent, qu'ils me questionnent, qu'ils me résistent parfois aussi. J'attends pas d'un livre qu'il me donne immédiatement un sens ou une direction, une interprétation, mais au contraire qu'il me malmène un peu. Et c'est aussi cette expérience-là d'écriture que je m'offre très égoïstement lors du travail sur le livre. Et puis c'est aussi une expérience de lecture que j'aimerais pouvoir partager avec le lecteur.
Alors, tenter l'expérience de lecture que vous propose Jean-Baptiste Delamo. Isabelle me demande si ça se finit bien. Ben, ça, à vous de voir. Ça se termine dans une dimension presque fantastique avec, d'une manière allégorique, vous le verrez, la victoire de la nature, finalement, la vengeance de la nature sur les hommes qui la maltraitent.
Qui vivra verra.
Oh, excellent! Deux airs athées. Les amateurs de sensations fortes, en tout cas, seront comblés. Et les amateurs de jambon auront l'appétit coupé. Règne animal est publié chez Gallimard et sélectionné par plusieurs jurys des grands prix littéraires de l'automne, à commencer par le Goncourt. Entretien complet de Jean-Baptiste Delamo à retrouver sur RTL.fr.
Oserais-je vous dire que vous nous faites saliver avec votre règne animal? En tout cas, de curiosité, c'est évident. Le livre paraît chez Gallimard, hein, je vous le rappelle. Dans un instant, on se retrouve avec nos audiences télévisé et Isabelle Morini-Bosque, bien entendu. Bonne journée à tous, merci d'écouter RTL, à tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bon, il est 9h08, on va gentiment se tourner vers les résultats d'audience de notre soirée télévisée avec Isabelle Morini-Bosque et les chiffres de Médiamétrie.
Ah bah écoutez, audience très très éclatée, je parle sous le contrôle Médiamétrie. Oui, les experts cyber sont en tête sur TF1, mais 3 500 000 personnes à peine, 16% du public sur la 1. Bon démarrage pour Nina sur la 2, qui ne concède que quelques centaines de milliers, puisque le feuilleton rassemble 3 100 000 personnes et près de 14% du public sur France 2, c'est pas mal du tout. Pas mal non plus pour Dossier tabou sur M6, qui est troisième, même si 2 400 000 téléspectateurs, on pouvait espérer mieux, mais c'est pas un échec, et près de 13% du public sur M6. Côté TNT, c'est France 4 avec un James Bond, Rien que pour vos yeux, qui est en tête.
Oui. Avec Roger Moore.
Hein, oui, absolument. 880 000 téléspectateurs, le meilleur avec Sean Connery pour moi.
Celui-là était très bien.
Voilà.
Bon. C'est terminé ?
C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant.
On se retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Voilà. On n'arrête pas le progrès. Une nouvelle chanson des Beatles vient d'être créée. J'ai bien dit créée.
Oui, alors ce n'est pas une rareté révélée par Paul McCartney, mais une musique créée par une intelligence artificielle. Sony a en fait mis au point Flow Machine, une machine capable de remplacer le compositeur. Dans sa base, 13 000 partitions de toutes sortes, et on a ensuite demandé à cette machine d'imaginer une musique inspirée des Beatles, et voilà ce que ça donne. Le titre s'appelle Daddy's Car, ça a nécessité 4 ans de travail, on écoute. Car la presque nouvelle chanson des Beatles. Les paroles sont signées du français Benoît Carré. Un album entièrement composé par l'intelligence artificielle est annoncé pour l'an prochain.
Alors c'est amusant parce que c'est vraiment presque et en fait beaucoup moins intéressant, mais non, on est quand même curieux de connaître la suite.
Hein. Stéphane Boutsock nous en parlait hier dans Laissez-vous tenter. Très beau démarrage pour Radin de Fred Cavaillé avec Danny Boone. 136 000 personnes se sont pressées hier dans les salles de cinéma. Pour le premier jour de sortie du film, c'est le meilleur démarrage au ciné pour Danny Boone.
Ça y est, on connaît la date de sortie du prochain livre de Dan Brown.
Eh oui, Origin, c'est son nom, paraîtra partout dans le monde le 26 septembre 2017 chez Lattès. Dans ce livre, Dan Brown retrouvera notamment le personnage de Robert Langdon, le professeur de symbologie, déjà à l'œuvre dans ses best-sellers internationaux comme le Da Vinci Code, Angers Démon ou encore Inferno.
Est-ce que je peux vous lire le communiqué de l'éditeur américain qui résume le livre, qui fait du teasing,
en français, comme on dit.
Oui. Alors donc, Robert Langdon, on le suivra jusqu'à l'intersection dangereuse de deux questions immuables que se pose l'humanité et à la découverte fracassante permettant d'y répondre. Voilà, on n'est pas plus avancé, hein, franchement.
Ça crée de la confusion. L'État, en revanche, fait un effort en faveur du budget de la culture.
Les crédits affectés à la culture atteignent 10 milliards d'euros en hausse de 4,9%, dont le projet de loi de finances pour 2017, repassant le seuil symbolique de 1% du budget de l'État à 1,1%, a annoncé hier la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Les musées nationaux bénéficieront d'une hausse de 6 millions de leurs subventions de fonctionnement et de 50 emplois pour la sécurité. Quant à l'audiovisuel public, il recevra 62 millions de plus, financés par une hausse de 2 euros de la redevance qui sera portée à 139 euros.
Merci Audrey.
Catherine Pégard, présidente du domaine de Versailles, reconduite pour 3 ans dans ses fonctions. Le gouvernement a jugé positif le bilan de cette ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy, nommée en 2011 à ce poste prestigieux.
Merci Catherine. Alors, drôle d'idée, des particuliers veulent louer le stade Pierre-Mauroy à Lille.
Oui, mais pas pour organiser une gigantesque fête d'anniversaire, mais pour inviter un groupe à s'y produire et pas des moindres. Ils veulent inviter le groupe U2. Inauguré en 2012, le stade Pierre-Mauroy était censé attirer, en plus des matchs du LOSC, de nombreux concerts, mais la programmation reste très mince. Si 25 000 personnes donnent 10 euros chacune, la location sera possible. En revanche, si le groupe ne vient pas, les donateurs seront intégralement remboursés.
Vous vous souvenez sans doute du Gangnam Style.
Oui. Gangnam Style.
Gangnam Style. Et bien, une autre chanson virale fait en ce moment le buzz sur Internet.
Oui, cette chanson a déjà été vue plus de 60 millions de fois sur YouTube. On la doit au DJ japonais Kosaka Daimao et son style décalé, petite moustache, lunettes, costume jaune et écharpe léopard. Son titre s'appelle Pen, Pineapple, Apple Pen, traduisé stylo, ananas, pomme, stylo. Ça sent la grosse recherche. Les paroles sont du même niveau.
I have a pen, I have an apple, un apple pen.
J'ai vu le clip, mais il faut le regarder pour comprendre le sens de cette chanson qui vole assez haut, comme vous l'avez compris. Merci Charlotte, c'était donc les Express de Laissez-vous tenter. Alors Isabelle, on repart pour notre soirée télévisée. C'est la reprise ce soir à 20h55 sur la 2 d'Envoyé spécial avec justement un dossier très spécial dans tous les sens du terme sur l'affaire Big Malion. Du nom de cette société chargée d'organiser les meetings de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Des meetings au compte pas très rond qui ont valu à l'ancien président une demande de renvoi en correctionnel pour financement illégal de sa campagne électorale.
Oui, rien n'était simple et tout s'est compliqué parce que cette bagarre en a entraîné une autre à France Télévisions. Quand le parquet demande ce renvoi en correctionnel début septembre, Envoyé spécial enquête depuis 4 mois sur les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy via Franck Attal, l'homme de terrain chargé d'organiser les meetings de l'ancien président pour Big Malion. Michel Fil sait que l'enquête est prévue pour ce soir 29 septembre, le patron de l'info de France Télévisions, mais il veut à l'époque éviter le télescopage avec la primaire, alors il demande une diffusion immédiate, ce que lui refuse Élise Lucet. Pour elle, le reportage n'est pas prêt et j'en suis témoin, car mardi, au visionnage sur la table de montage, il restait beaucoup de chiffres à vérifier, l'équipe voulait le sur vérifier dans cette enquête toujours claire qui se suit absolument comme un polar. On croit être dans un cluedo. On entend Jean-François Copé, son directeur du cabinet, on les entend tous, et évidemment Franck Attal. Restent les chiffres, hallucinants. J'ai demandé à Élise Lucet lequel l'avait le plus frappé.
Peut-être les 18 millions d'euros de dépassement minimum, parce qu'à la fin de l'enquête, on s'interroge sur d'autres millions supplémentaires de dépassements potentiels. N'importe qui peut comprendre l'affaire Big Malion si on lui explique correctement. À nous de faire le boulot, donc on le fait. En plus, quand on aborde une période comme celle-ci qui va être une période électorale, un téléspectateur informé en vaut toujours deux, un électeur informé en vaut toujours deux. Donc nous, on fait le travail d'informer les téléspectateurs qui sont aussi souvent des électeurs.
N'empêche, Élise Lucet, à cause de vous, une belle amitié va se terminer ce soir. Celle unissant Carla Bruni, le compositeur de la musique de meeting de Nicolas Sarkozy.
Écoutez, ce compositeur ami de Carla Bruni, Sarkozy, a composé l'air qui est une symphonie sur laquelle le candidat Sarkozy en 2012 entrait dans toutes les salles de meeting. Sauf qu'on se rend compte quand on appelle la commission des comptes de campagne que la composition de ce morceau a coûté 86 000 euros. Enfin, il dit combien il a été payé, hors taxes et TTC. À la commission des comptes de campagne, seuls 46 000 euros ont été déposés, donc déclarés.
Alors, j'avoue très honnêtement que j'ai oublié son nom en force de noter des chiffres à toute vitesse. D'accord. Alors, Élise Lucet, est-ce que vous avez tenté d'avoir, si j'ose dire, Nicolas Sarkozy à tout prix ?
Ah mais bien sûr, d'ailleurs très franchement, moi j'aurais rêvé que Nicolas Sarkozy vienne sur le plateau d'Envoyé spécial. On lui a tout proposé, une interview enregistrée avec Tristan Walex, le réalisateur du sujet, une interview avec moi enregistrée, une interview avec moi dans les conditions du direct, un face-à-face avec Franck Attal. On a tout proposé, tout a été refusé par lui, par ses proches, par son avocat.
Alors ce que je note aussi, c'est que vous n'avez pas fini de donner des sueurs froides à Michel Field.
Non, mais je pense qu'il y a eu des incompréhensions avec Michel Field. Il y avait pour lui d'abord un calendrier politique. Nous, on avait vraiment connaissance du calendrier judiciaire de manière plus précise que lui. Et puis, il y a aussi un calendrier médiatique. Il a essayé à un moment de combiner les trois. C'est juste pas possible. Le calendrier politique ne doit pas dicter le calendrier journalistique. Ça n'est pas possible. Donc, bien sûr qu'on va continuer à faire des enquêtes pendant toute la campagne électorale. Et on fera des enquêtes aussi bien à gauche, à droite. Enfin, à chaque fois qu'on trouvera des affaires, on les enquêtera.
Alors, compositeur, c'est Laurent Ferlet.
Ah, ben voilà. Alors voilà qui est dit. Il paraît que le nouveau générique les fait apparaître dans un container.
Oui. Bizarre. Alors, sincèrement, j'ai fait remarquer, Élise Lucet, que le décor est certes beau, mais comment dire, limite tape à l'œil. Ça lui ressemble pas, ça, le tape à l'œil.
Oui, on va présenter Envoyé spécial dans un container rouge, ouvert. On n'est pas enfermé dans le container. Rassurez-vous. Et l'idée, c'était surtout de dire, un journaliste d'enquête, un journaliste d'investigation, il va dehors, il va à la rencontre des gens, il va à la rencontre des problèmes. Et moi, c'est ce que je fais dans Cache. Et je ne m'imaginais pas bien au chaud dans un studio. Et mon équipe non plus. Personne n'avait envie de ça.
Bah, soit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Élise Lucet, à ceux qui lui reprochent de vouloir être, comment dire, la madame propre, la Erin Brockovich du pape, avec tout de même les caméras derrière elle?
D'abord, je ne suis pas Erin Brockovich parce que Erin Brockovich, c'était une lanceuse d'alerte. Je salue d'ailleurs le courage des lanceurs d'alerte. Je fais mon boulot de journaliste. Je ne pourrais jamais le faire sans mes équipes de Cache ou d'Envoyé spécial. Il n'y a que comme ça qu'on produit de très très belles enquêtes. Et après, monsieur propre ou madame propre, moi je déteste les étiquettes. J'essaie juste de faire le job, de le faire correctement. Et j'ai la chance de pouvoir le faire dans un groupe qui s'appelle France Télévisions. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où ça peut se passer. Donc merci Delphine Ernot.
Delphine Ernot, la patronne du groupe France Télévisions.
20h55
ce soir, très attendu.
Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Charlotte Latour et le contre-ténor argentin Franco Fagioli.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
La musique classique avec place maintenant à une voix inattendue ce matin avec vous, Charlotte Latour. Bonjour.
Bonjour.
Celle du contre-ténor argentin Franco Fagioli. Il sort un album Rossini demain et il est sur scène de l'Opéra Garnier en ce moment dans Elio Gaballo. Il faut que je le prononce correctement.
Alors allez-y, prenez votre temps.
Elio Gaballo.
Elio Gaballo. Alors à moins d'être parisien et d'avoir vu des affiches dans le métro, vous risquez de vous demander mais qui c'est celui-là? Alors c'est vrai que cet opéra de Francesco Cavalli, écrit en 1667, n'a encore jamais été donné en France. À sa création, il a même était interdit parce que jugé trop osé. Il faut dire que l'empereur Elio Gaballo se travestit, séduit des femmes et des hommes, viole, tue, et ce alors qu'il règne entre ses 14 et 17 ans.
Il ne faut pas le voir juste comme un empereur complètement fou. Il a surtout été élevé selon des codes différents avant de régner. Il était différent. Et je trouve que c'est intéressant de dresser un parallèle avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Faut-il juger les gens différents, les accepter, les tuer ? Tout ce qui, lui paraissait normal ne l'était pas du tout à Rome dans l'Antiquité. S'habiller en femme, pour lui, c'était un jeu, mais à Rome, c'était très mal vu. Je pense qu'il est devenu un personnage extrême parce qu'il était incompris.
Franco Fagioli, 35 ans, incarne avec un grand talent le jeune Elio Gaballo. Sa voix de contre-ténor accentue l'ambiguïté du personnage. Le chanteur argentin reconnaît que c'est assez jouissif de jouer ce rôle d'empereur qui a tous les droits, qui se baigne dans de l'or et demande à des femmes de siéger au Sénat pour remplacer les hommes. La mise en scène est de Thomas Joly, le petit jeune qui monte au théâtre et qui signe là sa première réalisation à l'opéra. Électrique avec des projecteurs dignes des meilleurs concerts de rock. De quoi ouvrir la saison 2016-2017 en beauté à l'Opéra de Paris. Le spectacle se joue jusqu'au 15 octobre.
Vous nous intriguez, hein ? Ce chanteur lyrique a une double actualité parce que son nouvel album sort aussi demain.
Et oui, après Fagioli dans le registre baroque du XVIIe siècle, Fagioli interprète des airs d'un compositeur du XIXe siècle, Rossini.
Même si je suis contre-ténor, quand j'ai débuté le chant en Argentine, j'ai commencé bien sûr par le baroque, mais aussi par le bel canto. Et quand je suis arrivé en Europe, tout le monde m'attendait avec un registre baroque, avec Handel et Vivaldi, et sûrement pas Rossini. Mais les pièces de cet album sont extraites d'opéras sérieux de Rossini et pas de comédies comme Le Barbier de Séville. Si j'ai opté pour ces airs, c'est parce qu'ils ont une connexion avec la tradition baroque que je connais bien.
Which is, let's say, the repertoire I was doing.
Extrait de Sémiramide, un drame amoureux au sein d'une famille royale, écrit en 1823. Franco Fagioli y tient le rôle de Siveno, qu'il a appris tout jeune. La voix de contre-ténor, la voix la plus aiguë chez les hommes, c'est plutôt une voix qu'on entend dans la musique ancienne, quand les castrats étaient à la mode. Mais Fagioli, lui, a toujours tenu à avoir un répertoire plus large que cela. Et Rossini a justement composé des rôles qui vont très bien à notre chanteur.
Même si ces opéras ont été écrits au 19e siècle et que la tradition des castrats avait disparu, la façon d'écrire un opéra était la même qu'au 18e. Et à la place des castrats, Rossini a choisi des femmes pour jouer les rôles principaux.
Extrait de Demetrio et Polybio, opéra peu joué de Rossini. Fagioli, sur cet album, opte d'ailleurs pour plusieurs pièces méconnues de Rossini, où des rôles masculins étaient tenus par des femmes, des mezzo-sopranos le plus souvent, une voix proche de celle du chanteur. Alors une fois de plus, notre contre-ténor argentin joue sur l'ambiguïté des genres. À son écoute, on retrouve un petit peu la chaleur de la voix de Cecilia Bartoli, en tout cas une grande agilité vocale, indispensable pour chanter Rossini. Le compositeur qui a lui-même chanté demandait des voix longues, avec beaucoup de notes graves et aiguës, et une grande souplesse pour aller d'un registre à l'autre, et ça c'est typique de ce qu'on appelle le bel canto. Qu'il joue un empereur déguisé en femme ou des rôles d'hommes écrits pour des femmes, Franco Fagioli est toujours inspiré, touchant. Ils sont peu nombreux, hein, les contre-ténors en vogue en ce moment, ils sont 4 ou 5 à vraiment sortir du lot, et lui parvient à la fois à avoir une présence scénique, une voix qui s'adapte à plusieurs époques, peut-être un petit peu moins brillante que celle d'un Philippe Jarouski, mais en tout cas une virtuosité indéniable qui fait de lui un artiste très demandé de par le monde. Son album Rossini est paru chez Deutsche Grammophon.
Merci pour cette découverte de Franco Fagioli, Charlotte Latour. On se retrouve dans un instant, tout simplement pour nous dire au revoir et accueillir Julien Courbet. Bonne journée à tous.
RTL Matin, laissez-vous tenter.
Merci à toute l'équipe. Demain, nous serons avec Jean Tellet pour son nouveau livre « Comme une respiration ». Nous l'accueillerons avec vous, bien entendu, Bernard Lehu. Moi, je vote maintenant Julien Courbet.
Oh bah c'est très gentil. Mais vous m'auriez vu ce matin, vous n'auriez pas voté pour moi.
Pourquoi ?
Bah, figurez-vous que ça fait maintenant, je ne sais plus, 17 ans, 18 ans que je viens tous les matins à RTL en scooter. Oui. Donc tous les matins, je fais le même geste, je prends mon casque, je monte sur mon scooter qui est devant chez moi et je pars. Et ce matin, l'idée m'est venue d'y aller en vélo. Sauf que j'ai quand même mis le casque et je m'en suis aperçu au bout de 500 mètres. Donc j'ai fait quand même 500 mètres en vélo sous le regard. Et je ne comprenais pas que les gens me regardent. Oui. Je me disais, mais comment ils peuvent me reconnaître puisque j'ai mon casque ? Mais parce que j'étais en vélo, avec un casque intégral. Voilà.
C'est votre côté un peu mégalo, moi j'aime bien.
Il n'y avait aucun
mégalo à vélo.
Aucun autocollant RTL sur moi, donc ça n'a pas porté préjudice à la radio.
À la station. Voilà, mais cette confession me touche. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le divan de
Marc-Olivier
Fogiel.
Depuis le temps que j'avais envie de vous toucher, eh bien écoutez, c'est fait. Je vous ai touché. Je peux maintenant démarrer maintenant l'émission. Merci, mon Yves.
Bonne émission.